Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
Puisque les vacances sont encore proches, parions qu'une fois de plus, nous n'allons pas échapper à tous ceux qui ont fait le Mexique, ou fait Venise, ou les Alpes, ou encore à ceux qui auront fait le Louvre, ou les Offices, ou le Cantal. Fait. Vraiment. Bêtement, je pensais que Venise, le Louvre ou le Cantal étaient déjà faits et que les vacanciers avaient été voir, avaient visité ou même s'étaient rendus ici et là. Mais se rendre, vous n'y pensez pas. Il faut faire. Ce qui blesse dans ce tic qui se répand de bouche en bouche comme un herpès qui irriterait plus l'oreille qu'il entend que la bouche qui l'émet, c'est d'abord qu'il est l'un des nombreux témoins d'une langue qui va s'appauvrissant, recentrée autour d'un lexique de plus en plus réduit. On fait la vaisselle, on fait l'amour, ou pire, dernièrement, on fait du sexe. On fait semblant, on fait des selfies, des messages, des grimaces, et puis on fait la côte basque ou Florence. Au-delà de la pauvreté lexicale, c'est à toute une simplification de la grammaire et donc de la pensée qu'on assiste et qu'on participe. Et puis, si on ne musarde plus dans des musées, si on ne se dépayse plus, c'est tout simplement parce qu'il s'agit moins d'être transformé par ce qu'on voit et ce qu'on vit que de cocher une case sur la liste des choses à faire. Les offices, c'est fait. Le selfie devant la naissance de Vénus, c'est fait. Je me souviens de ce matin merveilleux à Florence où, pour la première fois, je la rencontrais enfin, cette immense Vénus. Moi qui avais tant de fois contemplé sa reproduction dans une belle histoire de la peinture qu'on avait dans la maison de mon enfance. Malgré le bruit, malgré la foule, Vénus apparaissait tout en volutes de fraîcheur. Un homme s'était approché de la déesse de l'amour, mais il fut vite rappelé à l'ordre par une épouse qui ne trouva rien de mieux à lui dire que ces mots sidérants. « Bon, on avance. » Celui-là, on l'a vu partout. Celui-là, on l'a vu partout. J'aime penser que l'épouse, à son insu, avait perçu le dangereux pouvoir de la beauté. Mais, pour être franche, je crois qu'elle agissait plutôt comme ceux-là qui n'aiment pas trop qu'on perde son temps à bâiller aux corneilles et aux Vénus. À quoi bon le regarder en vrai, ce chef-d'œuvre de grâce et de transparence, puisque grosso modo, grâce aux reproductions, Botticelli s'était déjà fait. Oui, on en avait assez fait pour pouvoir, au dîner de rentrée, faire signe qu'on était de ce groupe-là, celui qui, pendant les vacances, fait dans la culture. Vous me direz que c'est mieux que de s'affaler sur une plage ? Je ne sais pas. Je me demande si celui qui aurait la chance de trouver, encore, un bord de mer un peu préservé, silencieux à lui-même, n'aurait pas un tout petit peu plus de chance, en rêvassant entre vagues et soleil, de sentir la quiétude de la naissance de Vénus que cette dame. Peut-être même serait-il aidé en cela par une belle sirène se dessinant en contre-jour sur le bleu de la Méditerranée. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à ces troupeaux de randonneurs et autres adeptes de cette nouvelle religion qu'est le culte du corps, ceux qui, prenant les sommets à la hussarde, en reviennent en tonitruant qu'ils se sont faits tel col des Alpes. Oui, oui, ils se sont faits. Force est d'entendre alors que ce qui les intéresse, ce n'est nullement la grâce des lieux, mais le fait d'avoir forcé leur résistance, d'y avoir laissé leur petit pipi, pour pouvoir, entre la poire et le fromage, ou plutôt entre le boulgour et le yaourt au soja, montrer qu'ils ont pris leur part dans le grand jeu compétitif. Parce qu'au fond, c'est de cela qu'il s'agit. En vacances même, la compétition continue. C'est à qui fera le mieux, à qui fera le plus, et puis finalement, c'est à qui viendra planter son petit drapeau de consommateur obéissant sur les merveilles du monde. Non pour s'y laver le regard aux eaux limpides de la beauté, non pour en être transformé, mais, misérablement, pour pouvoir dire et se dire « ça, c'est fait ». Pour un peu, on entendrait un ouf de soulagement, un de moins sur la liste des 10 ou 100 choses qu'on doit absolument avoir faites avant de mourir. Car oui. Même en vacances, il ne s'agit pas de ne rien faire. On regarde sans voir, oui, on saute d'une sensation à une autre, oui, mais on fait. L'oisiveté, on le sait, est mère de tous les vices, et la crainte du pouvoir a toujours été le temps libre. Avant 1936, il n'était pas question que la dangereuse classe populaire ait une semaine de congés payés. Aujourd'hui, il faut organiser le loisir des masses, et si on ne peut empêcher qu'elles aient des temps de vacances, rien n'empêche de les forcer à la distraction. L'important étant d'étourdir nos esprits et d'épuiser nos corps pour que surtout nous n'ayons ni l'idée, ni la force, ni plus même le désir d'imaginer une vie différente. Bien sûr, le temps a toujours été le luxe des puissants. Mais pour chacun, dans la vie de tous les jours, restaient toujours des temps de rien. Tant de veillées, tant de siestes aux heures trop chaudes, temps essentiel pour se retrouver. Le pouvoir a toujours cherché à maîtriser le temps. Le néolibéralisme exige que le temps soit rentabilisé. C'est sa façon de garder le pouvoir et d'en tirer profit. Le temps, c'est de l'argent. Et chacun a désormais intégré cet adage et regarde, plus ou moins déprimé, le sablier d'une vie de plus en plus remplie et de moins en moins pleine. Non, le temps, ce n'est pas de l'argent. Et c'est dans ce piège que nous tombons lorsque, ne sachant plus nous perdre dans les ruelles de nos mémoires, nous faisons leur Eldorado. Non, le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est ce qui ne se calcule pas, ce qui, sauvage, échappe au quadrillage, ce que nous essayons de retenir entre nos mains et qui, s'en échappant, nous confrontant à notre mortalité, allume notre désir. C'est cela que faire la Bretagne ou l'Andalousie vient boucher, le désir et la dangereuse révolution qu'il apporte toujours avec lui. Car désirer, c'est être aux prises avec un manque qui, tour à tour et selon chacun, rend ingénieux, mélancolique, créatif, enragé ou contemplatif, liste des possibles d'autant plus infinie que leurs combinaisons entretiennent une relation dynamique avec nos singularités. Mais comment désirer quand on peut tout se faire ? Où désirer quand nos temps sont domestiqués et fragmentés et comme en compétition entre eux ? Tant du travail contre tant des vacances, tant pour l'esprit contre tant pour le corps, tant pour soi contre tant pour les autres. Le quadrillage du temps comme la spécialisation du travail et des compétences, comme encore la multiplication des revendications identitaires, participe d'une fragmentation sans laquelle le néolibéralisme ne peut fonctionner. Il s'agit de nous maintenir le nez dans le guidon du détail. Car, si un collectif de singuliers désirs venait à prendre consistance, qui sait si nous ne verrions pas l'absurdité délétère d'un système qui ne fonctionne que pour le privilège de quelques-uns, aux dépens de tous et de tout ? Qui sait si, ensemble, et ayant le temps de ne rien faire, nous n'aurions pas la force d'agir ? Qui sait si nous ne nous mettrions pas à rêver à nouveau, à retrouver ce bonheur si humain de ne rien faire, mais de vivre ? Qui sait si le temps tout entier ne deviendrait pas le nôtre ? Alors on ne ferait plus le Mexique ou les offices, mais dans l'épais mystère d'un temps sans visée, nous aurions à voir la fragile et difficile beauté de nos vies de mortels. Alors, faire apparaîtrait pour ce que c'est, une nécessité et parfois une joie, auquel nous pourrions prendre une part créative, collectivement et singulièrement, non pour gagner un temps de vacances que nous nous hâterions de remplir pour n'en pas subir l'angoisse, mais sans autre but que d'être dans le temps de nos vies, sans autre but que de vivre parce que nous sommes vivants, sans autre visée que celle de s'éprouver, vivant parmi d'autres vivants, fragile au sein d'un monde fragile. Alors, la beauté, nue et subversive sur la frêle coquille de son incessante naissance, pourrait, infiniment, dévoiler l'insolente liberté d'un instant arraché au temps qui passe. I've got big balls, I've got big balls, they're such big balls, and they're dainty big balls.